voilà. Donc, à partir de 1 Pierre 3, verset 8.
Enfin, soyez tous animés de mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction.
Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et célèbre des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal.
C'est tout?
Mmh. On lit chacun des versets, donc verset 13.
Ah, d'accord. Oui, qui vous fera du mal si vous avez pour modèle ce qui est bien? D'ailleurs, même si vous deviez souffrir pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais reconnaissez dans votre cœur la sainteté de Dieu, le Seigneur. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous, devant tous ceux qui vous en demandent raison.
Mais faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, en parenthèse, comme si vous faisiez le mal, ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. En effet, il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal.
Le Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés, une fois pour toutes. Lui, l'innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous conduire à Dieu. Et il a été mis à mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. Par cet Esprit, il avait déjà prêché aux hommes maintenant prisonniers du séjour des morts qui autrefois s'étaient montrés rebelles.
Ceux-là même qui avaient été rebelles autrefois, lorsque la patience de Dieu se prolongeait à l'époque de Noé pendant la construction de l'arche. Un petit nombre de personnes, à savoir 8, sont entrées dans ce bateau et ont été sauvées à travers l'eau. C'était une figure. Nous aussi, maintenant, nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Il nous sauve à travers la résurrection de Jésus-Christ, qui est monté au ciel, a reçu la soumission des anges, des autorités et des puissances, et se trouve à la droite de Dieu.
Voilà. Alors, juste Philippe, toi, tu as quelle traduction?
Ouais. Oh, moi, c'est, oui, c'est, j'ai pris une Bible d'études, donc, la version du Semeur 2000.
Semeur de
2000.
2000. Ah, la veste d'accord.
Ah, oui, j'ai compris 2000. Ouais, ouais. 1000. Je ne connais pas 1000.
Oui, parce que c'est juste là le verset, mais je ne sais pas si on ira jusque là, hein, le verset 19. C'est déjà une interprétation de ta Bible. Hein. Là, on n'est plus tellement dans la traduction. C'est tourné comment, si tu peux leur dire.
Mais... Par cet esprit, il avait déjà prêché aux hommes maintenant prisonniers du séjour des morts, qui autrefois s'étaient montrés rebelle.
Ouais, ouais.
On s'est pris en prison.
Voilà, ouais, ouais. Ouais, et puis maintenant, ouais, ben, ouais. Mais, bon, on verra si on va jusque-là, parce que c'est vrai qu'avec une.
Moi, ça m'intéresse de revenir un peu sur ce. Je suis toujours sur Louis II.
Ah, ben, bien sûr, non, c'est intéressant. C'est enrichissant,
mais,
hein, oui, oui.
Oui, oui, mais. Oui.
C'est bien.
Voilà, passer non, un petit bien. Peu de l'un à l'autre, c'est...
De toute façon, il n'y a jamais une traduction qui est parfaite hein, de la Bible, entre guillemets. Hein, elles sont bien sûr hyper bien travaillées. Mais une traduction en zéro erreur, ça n'existe pas. Et puis c'est pour ça que c'est intéressant de lire, de comparer les traductions. Ouais, quoi.
On pourra comparer aussi peut-être
les notes. Ça, c'est un point que j'ai travaillé de toute façon de manière assez précise. Mais on verra si on pourra aller jusque-là ce soir, c'est pas dit. Donc juste pour vous rappeler la vue d'ensemble de ce troisième chapitre, on avait vu la dernière fois, mais ça remonte déjà à 2 mois, hein, vu qu'on avait eu Pierre Hamet la dernière fois. Les versets 1 à 6 qu'on avait vu la dernière fois, c'était la responsabilité de la femme envers son mari. Le verset 7, c'était la responsabilité du mari envers son épouse. Et puis ensuite, aujourd'hui, on va voir par partie comme ça, 8 à 12. C'est les conduites à suivre dans nos relations. Relations entre toutes personnes, mais même aussi au niveau du couple. Hein, ça, c'est quelque chose qui colle aussi bien au niveau du couple. Les versets 13 à 17, la question de... Dans les relations, eh ben, on peut vivre aussi des injustices et comment les gérer. Et puis les versets 18 à 22, on a là un parallèle des souffrances, un parallèle avec le sacrifice du Christ qui est déjà enseigné par l'apôtre Pierre qu'on avait vu au chapitre 2. En fait, hein, où il parlait déjà des souffrances. En tant que chrétien, hein. Je vous redis juste là, par exemple, hein. En effet, ça c'est au chapitre 2, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements, c'est au verset 20, pour avoir commis des fautes, mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces, hein. Donc voilà, on a au chapitre 3 aussi, il est abordé la question des souffrances en tant que chrétien. Alors, la conduite chrétienne, hein, comme je vous avais dit, par rapport au verset 8 à 12, et puis j'aborde un petit peu la chose. Là, on n'a pas un passage qui est hyper doctrinal et tout, on peut aussi en discuter ensemble, hein. Mais je vous amène déjà quelques éléments. La Bible nous invite, on le voit au verset 8, hein, à être animés tous des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Alors, avoir la même pensée, je pense que c'est pas que tout le monde pense de la même manière sur tous les sujets, parce que ça va être difficile. Et puis, si vous êtes dans un lieu où tout le monde pense de la même manière sur tous les sujets, d'un même cœur, hein, entre guillemets, j'ai envie de dire, partez en courant. Ouais. Parce qu'il y a fort de chances que vous soyez dans une secte. Hein, on voit les témoins de Jéhovah, ils ont une doctrine très, très fixe. Hein, et puis, voilà, c'est très hiérarchisé, c'est enseigné... Je ne suis pas un connaisseur, un grand connaisseur des témoins de Jéhovah, mais ils ont des canevas à suivre et puis ils ne partent pas dans toutes les directions. Ce qui fait que je pense que vous pouvez vous retrouver dans une salle de rencontre témoins de Jéhovah sur le canton de Soleure ou bien à Genève ou bien en France ou aux États-Unis. Et puis les gens vont avoir vraiment le même modèle de pensée. Hein. Avoir la même pensée, c'est, je pense, plutôt rester dans un lien de paix fraternelle, même si on a des opinions différentes. Et avoir la même pensée, c'est aussi chercher le même but pour l'Église. Et puis là, j'ai marqué, c'est un petit résumé, hein, après on pourrait rajouter plein de choses, mais les mêmes buts pour l'Église, on pourrait penser... Ben, simplement se réunir pour vivre la communion avec Dieu et la communion fraternelle, vivre la prière, se réunir pour l'enseignement de la parole, la louange et la Sainte Cène. Hein. Mmh, voilà, c'est déjà quelques buts qu'on a aussi en tant qu'enfant de Dieu pour se réunir à l'église. Ça, c'est les buts centraux, j'ai envie de dire. Hein. Il n'y a pas besoin, comme disait un ami, de réinventer la roue du char. Hein. Des fois, on veut des buts extraordinaires, des visions supra-merveilleuses, je ne sais pas quoi. Hein. Ben voilà, la Bible nous donne quand même un petit peu un canevas dans lequel on est appelé à fonctionner. On est appelé à être plein d'amour fraternel et oui, on fait partie d'une famille, de la famille de Dieu, et l'amour doit rester le moteur de nos relations. On doit aussi avoir de la compassion. La compassion, ben, c'est aussi avoir le souci de l'autre, c'est être bienveillant envers notre frère et notre sœur en Christ. Et Pierre nous encourage aussi à avoir de l'humilité. L'humilité, c'est ne pas regarder l'autre comme inférieur à nous-mêmes. L'humilité, c'est pas se gonfler la tête en pensant qu'on est meilleur que les autres. Si on est debout, c'est une grâce du Seigneur. Et puis voilà, on sait qu'on est, on est tous en lutte de toute façon. Et puis que nul n'est à l'abri d'une erreur aussi, ou d'un mauvais comportement, ou d'une mauvaise pensée, ou d'une mauvaise attitude. Hein. Voilà, on est au chemin avec notre Dieu. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelé afin d'hériter la bénédiction. Et si on lit la suite, voilà, il y a quelques enseignements encore qui nous sont partagés jusqu'au verset 12. Alors, je ne sais pas si vous voulez réagir déjà sur ces versets 8 à 12, s'il y a quelque chose qui vous fait tilt dans votre pensée.
Moi, j'ai juste une question. Mm-hmm. L'apôtre Pierre parle à ceux qui sont déjà convertis, nés de nouveau, ça ?
Mm-hmm. Oui.
Ouais, donc ouais, on a encore ça. Plein de défauts. Quelle horreur, ouais.
Mm-hmm. D'accord. Là, je peux juste lire les notes aussi, c'est oui, intéressant, oui, oui. Quand tu as parlé, les mêmes sentiments, parce que là, justement, les mêmes pensées, on en a parlé, les mêmes sentiments, c'est-à-dire la sensibilité aux besoins des autres. Mm. Mm-hmm. Donc c'est toujours rattaché à l'Église et puis aux frères et sœurs malades, quoi. Mm-hmm. Mm-hmm. Et puis il y a aussi l'amour qui voit et traite les autres comme les frères comme des frères et sœurs. La compassion qui remplit d'affection pour les autres et prend soin d'eux. La bienveillance ou, selon certains manuscrits, l'humilité, c'est-à-dire le désir de s'encourager mutuellement et de se réjouir du succès d'autrui. Toutes ces attitudes montrent aux croyants la voie d'un service efficace pour Dieu. Donc c'est vraiment lié, comme tu disais, à l'Église, aux frères et sœurs.
Oui, c'est vrai que j'ai oublié de dire là, les mêmes sentiments, moi j'avais marqué. Mm-hmm. Ben, c'est justement aussi d'avoir une attitude de paix, hein, chercher le lien de paix et d'unité entre les frères. Hein. Voilà. Les mêmes sentiments. Hein. C'est pas. Oui, alors avoir les mêmes pensées, je pense que c'est, ouais, je pense que c'est aussi dans ce que je vous disais avant, hein, avoir une direction commune, un but commun, puis rester fixé là-dessus. Quoi.
Et puis aussi l'amour du Seigneur, c'est ce qui nous lie. Mm-hmm. Alors ça c'est la grande chose, si l'amour du Seigneur dans le cœur, ça simplifie pour beaucoup de choses.
Personnellement, moi je trouve que le verset 10 est excessivement important, pas seulement pour nous qui croyons en Jésus-Christ, en Dieu, mais pour chaque être humain dans la vie de chaque jour. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Parce que très souvent, ça arrive des fois tout d'un coup, quelqu'un nous dit quelque chose, mais c'est pas seulement dans le but de l'Église, mais dans le monde courant où l'on vit. Et très souvent, une personne peut dire quelque chose et ça peut toucher la personne Et la personne, très souvent, elle répond du tac ou tac, immédiatement, sans trop réfléchir, et en disant des choses qui font encore plus mal que ce qu'elle a reçu. On lui dit quelque chose qui lui fait mal, et l'autre personne lui répond du tac ou tac, mais tellement crûment que ça blesse l'autre personne, et ça peut provoquer des petits problèmes par la suite. Et justement, préserver sa langue, hein, ça, alors vraiment, je trouve que c'est très, très important. Et comme je dis, ça ne s'adresse pas seulement à nous, mais à tous les êtres humains. S'ils veulent avoir des ennuis et des problèmes, très souvent, il y en a qui répondent du tac au tac, et après, ils regrettent ce qu'ils ont dit. Ils se disent, ah, mais j'aurais pas dû dire ça. Quelle bêtise, j'ai dit ça, puis ça, là, ça lui a fait mal. Hein. C'est pour ça. Et puis très souvent, je ne sais pas si c'est dans la parole de Dieu, on dit de retourner sa langue sept fois dans la bouche avant de dire quelque chose. Et il y a une chose que ce que j'aime bien, c'est que c'est aussi dans la parole de Dieu, et ça je trouve très important, c'est qu'il faut être prompt à écouter, mais lent à parler. Pas de parler lentement, mais au moment d'ouvrir la bouche de quelque chose, bien réfléchir à ce qu'on dit, sans blesser l'autre personne. Voilà, je vous ai dit mon point de vue.
Merci. C'est, alors, peut-être on s'arrête juste un petit moment sur ce verset 10, parce que, en effet, aujourd'hui, on est dans une société, c'est un peu du tac au tac. Hein. On est dans l'hypercommunication avec Internet, les gens sont sur des réseaux et sociaux, et puis... les réponses, des fois, ne tardent pas, hein, bien au contraire. Mais ce n'est pas toujours dans le respect. Et voilà, hein, le verset 11 nous dit aussi « Recherchez la paix hein, ». Recherchez la paix et la poursuivre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas toujours dans cette attitude-là dans notre société. Préserver sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Aujourd'hui, malheureusement, on est dans un monde avec énormément de tromperies. Et ça touche vraiment profondément notre société. Bon, c'est bien sûr pas d'aujourd'hui, c'est depuis la nuit des temps. Mais on vit quand même un temps où il y a beaucoup, beaucoup de manipulations, beaucoup, beaucoup de mensonges. Et ça, malheureusement, on retrouve cette situation même dans nos familles. Hein. On peut aussi se retrouver dans des relations où il y a du mensonge et de la manipulation. Même dans l'Église, ça existe aussi. Hein. Et puis, on peut retrouver ça, je pense que je ne vais pas vous apprendre la chose, mais en politique, en économie, dans les médias. Dans le travail, hein, dans les amitiés même, malheureusement. Donc aujourd'hui, on est dans un temps de tromperie. Et puis l'échelon final, ce sera qui? Ce sera l'Antéchrist. Ça, ce sera le dernier des grands trompeurs entre guillemets. Hein, ce sera le dernier des grands manipulateurs. Il aura un visage très séduisant. Et c'est de cette manière-là qu'il va entraîner toutes les nations à sa suite. Et la personne qui est dans sa nature quelqu'un qui aime tromper, il va venir toujours avec un visage séduisant. Hein. Il ne vient pas avec le masque de l'homme méchant. Il vient avec le masque de l'homme gentil. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu... Il y a des psychologues aujourd'hui qui appellent ces gens-là parce qu'il y a des gens qui carrément, c'est devenu dans leur nature, c'est un mystère, hein, mais ils sont imprégnés de tromperies. Certains psychologues appellent ces gens-là des pervers narcissiques. Je vous en ai déjà parlé un petit peu. Hein.
On entend plus en plus ce terme-là.
Ouais. Ouais.
Ça devient la mode.
Ça devient la mode. Hein.
Le mot devient la mode, mais...
Mais
pervers narcissiques.
Mais le phénomène... Le phénomène des gens.
Si tu regardes dans les proverbes, les pervers, ils en parlent. Dans la parole de Dieu, c'est parler des pervers. C'est vraiment des personnes qui ont deux visages, qui ont deux manières de...
Voilà, beau par devant et puis mauvais par derrière. Donc c'est.
Mais là, c'est plutôt manipulateur, hein, le pervers narcissique. Ça,
il manipule, hein, de toute façon.
Mais il a cette facette-là.
Il a cette facette de séduction. Aussi, hein, il pense toujours pour clairement. La victime ou pour.
Mais c'est dans le but de manipuler toujours.
Oui, mais il vient comme un séducteur.
C'est la même chose.
Le pervers narcissique, il a cette facette du sauveur même. C'est la personne qui vient de... Par exemple, le pire, c'est si tu te maries avec une personne comme ça. La personne, elle vient vraiment comme le prince charmant, comme le messie, comme le patron idéal, comme l'ami que tu n'as jamais eu, qui te comprend, comme l'épouse idéale.
La personne, en fait.
Ou même comme le leader spirituel idéal. Hein, malheureusement, parce qu'il y en a aussi dans les églises. Hein.
On peut se tromper soi-même.
Oui, alors, bien sûr, de toute façon, la nature humaine, qui n'a jamais trompé personne, hein, je veux dire, qui lève la main.
Il y a une différence entre se tromper et puis tromper, hein, attention. Hein.
Voilà, mais même tromper quelqu'un, c'est dans la nature humaine, ça peut arriver qu'on va chercher à séduire, des fois inconsciemment ou des fois même consciemment. Parce que vous êtes enfant, par exemple, puis je sais pas, vous voulez une petite sucrerie. Est-ce que vous avez jamais cherché un peu à séduire maman pour avoir la sucrerie, hein? Est-ce que vous étiez toujours parfait dans votre relation avec vos parents? J'ai des doutes. Mais c'est autre chose que de le faire comme ça, voilà, dans notre nature humaine. Et puis après, le Seigneur travaille nos cœurs, hein, on va pas rester là-dedans. Mais que d'avoir vraiment cette nature-là et d'avoir comme moteur existentiel cette nature-là. Et il y a des gens, ils sentent bien que quand ils peuvent tromper, rabaisser et détruire les autres. Hein. Ça c'est autre chose. Donc, la Bible nous dit, préserve ta langue du mal et préserve tes lèvres des paroles trompeuses. Et si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, c'est pas des longs jours, hein, mais des jours heureux. Si quelqu'un veut vraiment aimer la vie, alors qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Et des fois, je pense, on doit s'éloigner aussi de certaines personnes, mettre une distance. Ça veut pas dire toujours couper complètement la relation, mais des fois, peut-être on est obligé, hein. Mais des fois, il faut s'éloigner de certaines personnes. Parce que nous, en tant que chrétiens, on a, je vous avais partagé une fois sur la réconciliation. Un message j'ai fait là-dessus, hein. S'il est possible, autant que ça dépende de vous, soyez réconciliés avec tout le monde. Et puis, si c'est vrai qu'on est appelé à pardonner, en toutes circonstances, c'est pas un truc, Dieu nous aide, hein, aussi par rapport à ça. Ça ne vient pas forcément à la seconde même de l'offense, hein, le pardon. Mais la réconciliation, ce n'est pas toujours possible. Et il y a des personnes avec qui on aura beau essayer, on n'arrivera pas à se réconcilier parce que la personne, elle va continuer dans son dysfonctionnement. Et à un moment donné, on doit prendre un peu distance. On doit s'éloigner du mal et poursuivre le bien. Rechercher la paix et poursuivre la paix. Et si c'est quelqu'un qui est tout le temps en train de te remettre en question, de t'agresser, de t'abaisser, comment pourras-tu poursuivre la paix avec une telle personne? Ça va être difficile. Hein.
On aura essayé de le faire.
On aura essayé, oui. Alors, bien sûr, il ne faut pas s'arrêter au premier truc et puis se dire, oh, ben, c'est bon, j'arrête, j'ai fait, ciao Berthe, je m'en vais. J'ai fait ma part, oui. Mais à un moment donné, que Dieu nous donne la sagesse, si on est vraiment dans une relation qui est sans arrêt conflictuelle et dans une relation avec quelqu'un qui nous tire tout le temps en bas, que le Seigneur aussi nous donne la sagesse pour avoir le regard de Dieu dans cette situation. Parce que des fois, on se juge soi-même. Parce qu'on va se dire, mais alors, tu manques d'amour, tu manques de pardon, tu manques de patience. Hein, on va se dire toutes ces choses-là. Puis le Seigneur, peut-être, il est en train de dire du haut de son nuage, « Stop, mon fils! Arrête !» Arrête, va plus loin dans ta réflexion.
C'est pas facile.
C'est pas. Mais ça, dehors les chiens et les idolâtres.
Quand on dit dehors le chien, hein, justement, ça, je me suis posé souvent la question. C'est l'animal le plus fidèle avec l'homme. Ouais. Tu regardes tous les autres animaux, le chat, il est individuel, il fait à sa manière, il te fait la tête, il vient quand il a décidé. Tous les autres animaux, mais tu prends le chien, qui a été dressé par le loup sauvage, mais tu prends le chien, il est toujours auprès du maître. Quand le maître lui demande l'adresse de faire quelque chose, il le fait. Et tout d'un coup, on voit dans la ville dehors les chiens. Le rapport dehors les chiens par rapport à l'animal réel, dompté, que l'homme a dressé, quel est ce rapport? Vous avez bon, à trouver quel est le rapport?
Tu ne dois pas, en faire, tu dois pas le considérer comme un humain.
Citation de la Bible.
Jésus le dit aux Juifs, non?
Non, je crois que c'est dans l'Apocalypse de Jean. Dehors les chiens, les idolâtres et tout ça, ça c'est vraiment le jugement final. Et puis, alors peut-être on peut s'imaginer dans le temps de l'Antiquité, il y avait beaucoup de chiens errants. Et puis le chien, c'était pas comme aujourd'hui, il venait dans la maison, des petits câlins, des vouvouf, la dernière croquette à la mode et le meilleur délai.
Donc, ça mangeait tout ce qui traîne, c'est toujours le cas d'ailleurs.
Mais en même temps, je pense dans l'Antiquité, les chiens, ils étaient quand même bien appréciés parce qu'on voit des sculptures chez les Égyptiens. Donc il y avait des chiens domestiqués. Mm-hmm. Et puis je pense qu'il y en avait d'autres, c'était des meutes sauvages. Je pense que c'est plus par rapport à ces chiens-là que la Bible s'exprime.
Qui sont agressifs, donc un peu oui, style loup. Hein. Mais tu sais, on n'a pas besoin d'aller à l'Antiquité pour ça. Non, au sud d'Italie, à partir de 11h minuit, tu sais qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent de la campagne, ils viennent par des hordes, ils rentrent dans la ville, ils vont chercher dans toutes les poubelles pour manger. Des hordes de chiens. Pendant le jour, tu vois personne. Ils sont pas là. Ils sont dans la campagne, au milieu des oliviers et tout ça. Mais dès qu'il y a 11h minuit du soir, tu le vois, ils savent.
Ils viennent manger.
Ils viennent manger. Ils vont dans toutes les poubelles, ils vont chercher. Mais maintenant, même maintenant, à notre époque, c'est envahi de chiens. Des chiens abandonnés qui sont vraiment...
Donc, c'est pas perdu pour tout le monde.
Dans la Bible, quand il est marqué « chien », c'est des personnes, parce que ce n'est pas les chiens eux-mêmes.
Non, bien sûr, bien sûr.
C'est quel comportement? Si c'est les personnes, ça veut dire qu'ils avaient un comportement, ces personnes. Voilà. Et le comportement de ceux qu'on disait chiens, c'était quoi? Sauvage, agressif, c'était quoi?
C'est des chiens sauvages, quelque part. Donc,
des hommes qui seraient sauvages.
C'est des animaux qui n'ont pas été domestiqués.
Avec les autres.
Parce que bon, on est bien d'accord, c'est une interprétation. Quand on voit certains chiens qui sont doux, gentils, obéissants, ils se font dresser. Quand vous voyez cette image-là, on a de la peine à comprendre l'autre image. C'est pour ça, des fois.
Mais je pense que c'est l'autre image, justement.
Ouais. Donc, de sauvage, d'agressif.
C'est ça.
Je pense que c'est cette image.
Alors, on est appelé à poursuivre la paix. Et il y a une promesse là qui nous est faite au verset 12. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et les oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Donc, Dieu est quand même un Dieu de justice. D'ailleurs, c'est ce que on est invité. Hein. Ne rendez point, le verset 9, point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire. Car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Donc, c'est Dieu qui est notre justice. Si on traverse une injustice, on n'est pas appelé à faire comme ça directement justice soi-même. Mais on doit poursuivre la paix, s'éloigner du mal. Et il y a une promesse, c'est que les yeux du Seigneur sont sur nous et que ses oreilles sont attentives à nos prières. Et que ceux qui font le mal et ceux qui sont dans des paroles trompeuses, la face du Seigneur est contre eux. Et il est même dit, ça c'est l'apôtre Paul, hein, que Dieu peut leur, je crois que c'est l'apôtre Paul, que Dieu peut leur envoyer une puissance d'égarement. Ça c'est terrible, hein. Tout d'un coup il y a comme un jugement qui peut venir sur la terre des vivants et Dieu va envoyer un esprit d'égarement sur la personne. Et la personne, elle va toujours plus s'éloigner de Jésus. Mais c'est aussi peut-être pour préserver la véritable Église, pour faire que cette personne-là qui ne veut pas se repentir, qui ne veut pas revenir du mal qu'elle est en train de faire, ben, à un moment donné, elle va être conduite par le Seigneur dans l'égarement. Et elle va quitter la communion fraternelle de l'Église.
Je m'excuse, j'ai juste trouvé par rapport au chien, donc là, pour un peu mettre la chose juste. En Philippiens 3, 2, « Maintenant donc, mes frères, mes sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur et n'hésitez pas, je n'hésite pas à vous écrire les mêmes choses et cela contribue à votre sécurité. » Bon, faites attention aux chiens.
Ah oui, là aussi. Là.
Faites attention aux mauvais ouvriers. Faites attention aux faux circoncis. En effet, les vrais circoncis, c'est nous qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, qui plaçons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans notre condition. Ça, c'est dans Philippiens 3, 2. Donc, il parle des chiens. Là, vraiment, tu avais raison par rapport aux hommes.
Aux hommes, c'est ce que je disais.
Dans ce sens-là, en tout cas.
Ça n'avait rien à voir avec l'animal, là.
Non, c'est figuré.
Et puis, j'ai juste regardé là sur Internet, c'est Apocalypse 22, verset 15. Hein. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, ça, c'est au moment du jugement. Donc là, les chiens, c'est aussi ceux qui sont dans le... des faux docteurs.
Dans le même sens de Philippiens avec Paul, qui dit ça. Les faux ouvriers, les mauvais ouvriers.
J'ai pas ce passage.
Faux circoncis.
Les traductions, c'est un chien, métaphore, un homme à l'esprit impur, un insolent, impertinent, avec le mot grec.
Là, j'ai encore juste une note là, sur ces chiens, et ces mauvais ouvriers sont vraisemblablement des judaïsants, des chrétiens d'origine juive qui croient à tort. Là on est dans les Philippiens avec Paul, qui croient à tort pour être sauvés. Que pour être sauvés, les non-juifs doivent se conformer à toutes les lois de l'Ancien Testament, en particulier au rite de la circoncision. C'est l'orgueil spirituel qui motive nombre d'entre eux. Ils ne peuvent admettre que tout le temps et tous les efforts qu'ils ont consacrés à respecter la foi ne servent à rien pour le salut. Paul leur reproche de prendre le christianisme à rebours. Ils pensent en effet être sauvés par leurs œuvres, la circoncision, opération physique, plutôt que le don gratuit de la grâce de Dieu en Christ. Les œuvres des croyants sont le résultat de la foi. Elles n'en constituent jamais le préalable.
J'ai le verset de tout à l'heure. C'est Apocalypse. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge.
On revient sur le mensonge.
Apocalypse 22, 15.
Garde-toi des paroles trompeuses. On retrouve le mensonge là aussi.
Il y a Philippiens, c'est celui que tu viens de lire.
C'est intéressant là ta note, parce que ça veut dire aussi, parce qu'en effet, peut-être par rapport au contexte des Philippiens, C'était les judaïsants qui voulaient remettre les chrétiens sous la loi juive. Et en fait, ils prenaient en otage rien de moins que l'évangile. Et ça c'est grave. Devant Dieu, peut-être que t'en entends comme ça un faux évangile, on va se dire, il n'a peut-être pas tout compris, ou bien on a différentes compréhensions et tout. Ce que déclare la Bible, c'est pas si tendre que ça pour ces gens qui viennent avec un faux enseignement et un faux évangile. Ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. C'est quelqu'un qui aime le mensonge. Je pense typiquement, c'est ce qu'on disait un peu avant, c'est pervers narcissique. Ils aiment le mensonge parce que ça les élève, parce que ça leur permet de régner sur les autres. C'est des gens qui aiment dominer, qui aiment prendre autorité sur les autres. Donc le mensonge leur apporte beaucoup de satisfaction.
Et puis la manipulation, parce qu'automatiquement, s'ils sont menteurs, ils manipulent par la force des choses.
Oui, c'est le but.
Par la force des choses, c'est le but.
Donc ils se glorifient eux-mêmes.
On voit qu'en fait tout ça c'est démoniaque. On voit que celui qui est là, qui est vraiment dans cette nature-là, celui qui a cette nature-là, c'est le diable. C'est les fruits de l'orgueil.
Mais dans cette histoire, il n'y a que les chiens domestiques qui ramassent sec et dur, hein, pour, parce que eux, ils sont gentils, tu vois.
Bah, parce que là, là, c'est bien ce qu'on disait, c'est pas mon chien.
Il y a ça, là, qui... Il n'y a que qui ramasse, hein, dans cette histoire.
Non, non, mais parce qu'il faut justement, il faut bien interpréter puis distinguer ce que la femme dit.
Souvent, j'essayais de trouver, mais qu'est-ce que ça a à voir avec ce là, chien,
vois,
cette
histoire.
J'ai souvent essayé de trouver le parallèle.
C'est pour ça que tu n'as jamais
rien
vu
les chats.
Que des chats. Mais ça, attention, ils sont très personnels, les chats.
C'est comme
ils
si
sont...
c'était les...
Oh là là.
Ils disent la voix.
Ils ont vécu jusqu'à 17 ans, mais je ne te dis pas, les chats.
C'est vraiment un peu...
On les connaître.
Ils font beaucoup de bruit, etc.
Enfin, voilà, c'est clair pour vous. On a encore quelques minutes.
On n'est pas arrivé au 17, non.
Non, on est
c'est
même,
trop loin.
On n'est même pas arrivé au 22. Ouais.
Non, au 17, je veux dire. 22, c'est plus bas.
Ouais, ouais, ouais. Okay. Non, mais parce que je regarde juste. Alors. Le passage suivant, il nous a parlé des souffrances qu'on peut endurer. On va essayer. Hein, faire, oui, on va essayer. Allez. Donc les versets 13 à 17, hein. Et qui vous maltraiterait si vous êtes zélé pour le bien, d'ailleurs quand vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux, n'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, hein. Parce qu'on voit, il y a vraiment, quand on lit le verset 8, ça commence super bien, hein. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, plein d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. On a envie de vivre ça dans l'Église, hein, c'est sûr, hein. Mais on voit bien que l'apôtre Pierre n'était pas un petit enfant sans connaissance. Et il savait très bien que dans l'Église, il y avait des tensions, et des tensions allaient aussi naître dans le futur. Et c'est pour ça qu'il parle qu'il y a des gens qui pratiquent le mensonge. C'est pour ça qu'il enseigne qu'il y a des gens qui aiment le mal. Et que par rapport à ça, comment est-ce qu'on doit se conduire? Ben, il nous donne des indications. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Parce que quand on pratique le bien, il faut malheureusement bien des fois réaliser qu'on n'est pas à l'abri de souffrir. Hein? Et on n'est pas à l'abri que des gens viennent nous maltraiter. Mais vu qu'on a l'espérance et la pensée du Seigneur et l'Esprit de Christ en nous, Dieu est à nos côtés. Et dans ces temps de souffrance, il nous abandonne pas. Hein. Et le verset, bon déjà le verset 14, hein, il dit d'avoir aucune crainte de ces gens-là, parce que celui qui nous justifie, c'est pas ces gens-là, c'est Dieu qui nous justifie. Et le verset 15, l'apôtre Pierre, pardon, nous dit « Sanctifiez dans vos cœurs le Christ, le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Sanctifiez dans vos cœurs Christ, le Seigneur. C'est-à-dire que on doit s'approcher dans ces moments-là, on doit s'approcher du Seigneur. On doit élever son nom, on doit chercher sa présence. On doit continuer à marcher dans la sanctification. On doit simplement se laisser aussi des fois porter par lui. Le Saint-Esprit va nous parler, va nous enseigner, va nous indiquer le chemin, va nous donner aussi suffisamment de sagesse dans le cadre de relations conflictuelles pour savoir comment les gérer, quelle attitude à avoir, quel comportement, quelle parole. Ou, comme je le disais avant aussi, quelle distance, hein? Distance complète ou distance, je dirais, partielle. Il y a des fois des relations où on est obligé de les garder, mais on peut se préserver aussi en mettant une certaine distance aussi par rapport aux mots qui peuvent nous être dits, de manière à ce que ça nous impacte pas trop profondément. Maintenant, on n'est pas, je dirais, on n'est pas complètement étanche, hein? On est des cœurs de chair aussi qui restent sensibles, hein? Mais voilà, on a quelques directives là qui nous sont données. Sanctifiez dans vos cœurs le Christ le Seigneur, et puis est toujours prêt à se défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Donc, si quelqu'un nous demande la raison de notre espérance, c'est qu'elle est déjà peut-être aussi sur un chemin de remise en question. Elle est dans un chemin de dialogue. Parce qu'on ne pourra pas toujours dire à l'autre quelle est l'espérance qui nous anime. Il y a des gens qui n'ont franchement rien à foutre, pour dire un peu.
Ils sont athées. Ils vous disent ouvertement. Ah non, moi je crois
pas. Non, mais moi je pense que c'est plus les personnes extérieures, parce qu'elles vont se dire, mais pourquoi tu réagis pas? Moi j'ai les cas concrets, là, ce verset, moi je l'ai vécu mot pour mot. C'est-à-dire que je me suis retrouvée dans des situations où des fois j'ai pas compris, c'était des gens, des amis comme toi, Pierre. Ou autre, on passe du temps à prier ensemble et tout, puis tout à coup ces personnes-là, on ne sait pas ce qui se passe, il y a des problèmes, et puis des fois, j'en ai eu pleuré, et au fur et à mesure, parce que j'ai eu le cas deux, trois fois, mais pour finir, j'ai remis ça à Dieu rapidement, et puis en fin de compte, Dieu m'a fait justice, parce que finalement, on va dire la troisième fois. La première fois, j'ai peut-être essayé de réagir plus par moi-même. On essaye de trouver des solutions. Mais on va dire la troisième fois, vraiment, j'ai remis ça directement à Dieu. Alors vraiment, il nous donne sa force et tout. Alors oui, c'est pas facile parce qu'on a envie de réagir humainement. C'est pas juste. Et puis vraiment, en plus, moi, je suis quelqu'un qui partirait facilement rué dans les brancards. Donc, mais Dieu m'a fait justice dans le sens où, finalement, ces personnes, elles ont toutes fini par venir me demander pardon. J'ai rien fait, j'ai absolument rien fait. Parce que c'était, en plus, je comprenais rien. J'avais, des fois, c'est des gens que j'avais aidés, que j'avais prié avec, que j'avais passé des heures à aider, puis on ne sait pas pourquoi, tout à coup. Des gens qu'on connaît depuis très longtemps, on n'a pas changé, on n'est pas différents, puis tout à coup... On ne sait pas pourquoi il y a des problèmes, il y a des soucis. Et Dieu m'a vraiment fait, moi j'appelle ça justice, parce que je trouvais ça injuste, je ne comprenais pas, puis j'en pleurais, et je me suis tournée vers lui. Et vraiment, il y a eu ces personnes finalement m'ont demandé pardon, quoi, donc sans que je fasse rien. Donc vraiment, Dieu, il offre pour nous, et il prend soin de nous. Et si on reste pas en cherchant à se faire vengeance ou à s'énerver, c'est une bénédiction, quoi, de pouvoir voir Dieu qui offre comme ça, quoi.
Alors, bien sûr que ces conseils qui sont donnés là, c'est pas seulement pour les relations dans l'Église, c'est dans les relations aussi de manière générale. On est toujours un peu dans ce sous-chapitre des questions de la conduite chrétienne, mais des fois aussi, on va le vivre malheureusement dans l'Église, ça peut arriver, ou dans une relation avec un frère en Christ. Mais on a quand même quelques pistes qui nous sont données, d'avoir une attitude de douceur et de respect, afin de pouvoir garder une bonne conscience aussi en nous-mêmes, et puis que comme si les gens continuent à nous calomnier, là c'est le verset 16, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Ça peut aussi arriver, parce que les gens ne viendront pas forcément nous demander pardon. Mais si on garde une bonne attitude, au final, ça va discréditer aussi leurs paroles. Et puis les gens vont le voir aussi, puis ils vont se dire, peut-être à un moment donné, ils écouteront les calomnies, mais peut-être à un moment donné, ils vont se dire, il y a quand même un problème. Parce qu'elle est tout le temps en train de me parler négativement d'un tel ou d'une telle. Et puis, moi, je ne la vois vraiment pas comme ça. Et puis, elle n'est pas en train, au contraire, de rajouter l'huile sur le feu. Ayez une bonne conscience. Là, j'ai écrit, voilà ce qui nous est demandé en toutes circonstances. Gardez une attitude qui préserve aussi notre propre intégrité. Dans les temps de calomnie, pensons un peu à nous-mêmes en cherchant à se protéger, afin de ne pas entrer dans un cercle vicieux. Car oui, mieux vaut souffrir en faisant le bien qu'en faisant le mal. Et Pierre dit au verset 14, hein, « D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. Mm-hmm. » Mm-hmm. À un moment donné, si on souffre pour la justice, s'il y a des gens qui nous calomnient, moi j'en ai eu des calomnies aussi, je pense que vous en avez aussi eu, vous avez dû peut-être connaître ça sur votre parcours de foi. Hein. la Bible déclare que vous êtes heureux. Pourquoi? Parce que vous déplaisez au diable quelque part. Hein. Un chrétien tiède qui est dans le compromis, qui vit dans l'hypocrisie, le diable va le garder sous couvert, hein, celui-ci.
Je prends toujours l'exemple des chrétiens persécutés. Mmh. Il ne faut pas croire qu'ils sont forcément justement malheureux. Oui, ils sont malheureux d'une certaine manière, mais ils sont justement ce verset-là est vraiment adapté pour eux. Quoi. Mmh.
Oui, mais c'est magnifique.
Ils peuvent être dans la joie, dans la
souffrance. Justement, comme Dieu, il agit, puis qu'il prend soin de nous, et puis que oui, il est là, il veille. Tu vois, voilà, on va nous dire Dieu veille sur toi, ou je ne sais pas, mais justement, là, quand toi, tu fais rien, tu déposes ça à Dieu. Il dit, mais c'est injuste, j'ai fait quoi, Seigneur? Puis t'en pleures. Moi, j'en ai pleuré, quoi. Et en beau jour, bah oui, ça dure. T'as l'impression qu'il se passe rien. Mais voilà, il y a la patience, la persévérance. Puis toutes ces choses-là, tout à coup, hop, et un beau jour, tout d'un coup, t'as la personne, tu reçois un message, la personne, voilà, elle va s'éponger. Puis ce qui était rigolo, c'est que, je pense en tout cas à trois fois où ça m'est arrivé, dans deux fois avec la même personne, donc. Et je veux dire, la deuxième fois, la personne, je veux dire, le message, il était presque long comme ça. Et puis vraiment, elle se remettait elle en question. Donc, c'était pas du bout des lèvres, hein, je te demande pardon. Ça est venu tout seul. Et puis, tu te dis, voilà, tu vois, que Dieu, voilà, c'est lui qui a agi, qui a touché cette personne. Je sais pas ce qui s'est passé. Et puis, ça veut dire que, oui, il est vivant. Et puis, ce qu'on lit dans la Bible, c'est pas des... On voit vraiment que c'est des choses qui sont vraies, quoi, et que c'est pas des choses qui sont passées il y a 2000 ans ou qu'on dit ça comme ça. Donc c'est passionnant. C'est passionnant.
Et puis le plus bel exemple, c'est Étienne.
Ah oui.
Hein? Il a continué à proclamer la gloire du Seigneur.
C'était hier, je crois, la Sainte Étienne, d'ailleurs. Hein,
Stéphano. En Italie, c'est Santo Stefano. C'est
l'endormi. Il était lapidé. C'est le Seigneur l'endormi.
Mais
pendant ce temps, il proclamait gloire.
Il chantait.
Et celui qui l'a quand même le plus massacré, c'était Paul.
En tout cas, il était là.
Il était là, en tout cas.
C'est condamné, mais...
Mais ce qui est magnifique, je ne sais pas si vous avez pu constater ça dans votre vie, en tous les cas moi dans la mienne, je l'ai constaté, ça soit depuis où je suis né, en Tunisie, la France, puis la Suisse, c'est quand Dieu, avec le recul, il vous montre toutes les interventions à votre égard. Ça c'est magnifique, parce que c'est lui qui vous le montre. Par tous les passages où on passe, et puis il se révèle, révèle en vous. S'il habite en nous par l'Esprit Saint, il se révèle aussi en nous par son esprit et il nous montre avec le recul le passage qu'on a fait et toutes ses interventions. Et ça, ça ne trompe pas. Ça. Si vous avez l'esprit de Dieu en vous, ça ne trompe pas. Vous ne pouvez pas être trompé, comme on vient de lire mensonge, tromperie ou tout ça. C'est une révélation, c'est révélateur ça. Puis moi ça, j'ai vécu et je rends gloire et grâce à Dieu pour tous ces bienfaits qu'il nous accorde. En abondance et quotidiennement. Des fois, on s'en rend même pas compte. On s'en rend pas compte, on croit que c'est la vie, c'est normal, c'est comme ça. On se lève le matin, après on va se coucher, on croit que c'est la vie de l'être humain sur cette terre, comme ça. Mais si on regarde de près ces interventions, par l'intermédiaire même de ces anges, ou de qui sont à son service en définitive, c'est magnifique de voir les différentes interventions de Dieu dans toutes nos situations, même dans les plus mauvaises. Et je vous garantis, des fois, on en passe des vertes et de pas mûres. Hein, des fois, et ça, je peux le
réaliser. Un temps soit peu la grâce de Dieu.
Voilà.
La grâce de Dieu qui n'a pas abondé, mais surabondé.
Parce qu'on ne mérite pas mieux que les autres, pour dire, on n'est pas meilleur que les autres. Mais c'est là qu'on voit où, où le péché a abondé, la grâce a surabondé.
Mmh. Avec la foi. Ouais.
Avec la foi. Et il faut avoir cette foi. Ouais. Pas comme c'est marqué dans la Bible, ils ont l'apparence de la piété, mais ils refusent. Ce qui fait la force. Ce qui est la foi. Mmh. Il y a une c'est quoi qui fait la force? C'est la force, c'est la foi en Dieu. Mmh. Mais il y en a beaucoup qui ont l'apparence de cette piété, et c'est tous des gens trompeurs, tout ce qu'on vient de dire.
Les chiens qu'on a dit, les faux ouvriers.
Ils ont l'apparence, ils ont tous l'apparence de la piété. Ils sont beaux, ils se présentent bien, ils ont une bonne diction, ils ont l'apparence de la piété.
Ils ont beaucoup de dons, certains, plus que n'importe qui.
Alors voilà, on arrive gentiment au terme. Hein. Verset 17. Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Hein. En effet, hein, mieux vaut-il souffrir pour la justice que pour l'injustice. L'homme a le choix. Hein. Tu souffres pour la justice ou pour l'injustice. Tu souffres pour le bien ou pour le mal. Donc c'est mieux vaut souffrir pour le bien que pour le mal. Si telle est la volonté de Dieu, ça veut dire que Dieu, il n'est pas pris au dépourvu. Si on vit une injustice, si on vit une situation difficile, Dieu n'est pas pris au dépourvu. Hein. Il est là, il a une solution pour nous. Il a une direction à nous donner. Il a un conseil encore à nous donner. Il a un réconfort encore à nous donner. Il a sa présence à partager dans nos cœurs. Hein. Comme il est écrit, sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur. Hein. Il veut encore prendre la première place, même si on passe par des temps difficiles. Le Seigneur a toujours une porte de secours. De toute façon, il a vaincu la mort.
C'est dommage qu'il est tard. On peut mettre un autre. Moi, j'aurais développé sur ce que tu viens de dire. C'est ça que j'avais à cœur depuis le bout. Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu, c'est-à-dire s'il le permet, donc, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Alors nous, comprendre faire le mal, on sait par essence qu'est-ce que c'est faire le mal. Mais faire le bien, est-ce qu'on peut donner la définition de faire le bien? C'est quoi le bien? Parce que des fois, on pense faire le bien et on fait le mal. Et le mal, tu c'est marqué, c'est biblique ça l'histoire. On pense faire le bien et en définitive, on fait le mal.
Paul qui dit, hein?
Je fais le mal. Alors comment définir le bien? Puisque Paul dit « je pense faire le bien et pour finir c'est le mal que je fais ». Et souvent on est tous confrontés à cet état de fait. Mais le bien, jusqu'où il va se
charnel, de l'homme animal, charnel plutôt.
C'est pas évident de définir jusqu'où commence le bien et jusqu'où il va finir le bien. Si on essaie de synthétiser tout ça, essayons une fois de synthétiser, c'est pas évident. Hein? Parce qu'on pense faire le bien et en définitive c'est le mal qu'on fait. Et on saute des coups par derrière.
Mais là, il y a la grâce de Dieu.
Oui.
Je ne sais pas si vous saisissez le sens.
Je
ne sais pas si c'est Alexandre ce que j'entends dire par là.
Tant qu'on n'a pas vaincu le corps spirituel, on sera toujours...
Parce que le mal, c'est facile de définir le mal. On sait ce qui est mal. On sait ce qui est mal.
Il est dit, le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout. Mais en effet, la grâce du Seigneur est là. Et puis, par la grâce de Dieu... L'apôtre Paul dira aussi la grâce de Dieu n'a pas été vaine envers moi. Il en a fait beaucoup, mais il sait que c'est par la grâce de Dieu. Donc le bien qu'on peut faire, nous on sait qu'en tant que chrétien, c'est par la grâce du Seigneur. C'est pas parce qu'on est meilleur que les autres, c'est le don du Seigneur dans nos vies. Hein.
Ce qu'on voit aussi, c'est que c'est des hommes comme l'apôtre Paul qui ont vécu justement des choses horribles. Qui ont réalisé cette grâce justement à plus forte raison, plus fortement que n'importe qui, parce qu'ils ont vécu comme persécutés, tuer des gens, etc. Ouais,
alors que lui, il pensait à faire le bien.
Hein. Ben oui, en faisant ces choses-là. Alors lui, il était convaincu qu'il faisait le bien. Ouais.
Ça rentre un peu, tu vois, dans ce que je viens de dire. Qu'est-ce qu'est le bien, qu'est-ce qu'est le mal?
Il détermine aussi Dieu en considération des personnes qui vont dans un sens, mais qui sont honnêtes dans le sens dans lequel elles vont, mais qui vont, qui sont faux, qui sont dans le mal, mais qui sont intègres dans le sens qu'ils vont droit, dans leur ligne. Et il aime de telles personnes. Et il peut les corriger pour qu'elles deviennent après des personnes comme l'apôtre Paul.
Ou on peut penser aux musulmans.
Ouais.
Oui. Voilà, tout à fait. Hein. Ouais. Et puis de toute façon, on est tous en chemin. Hein. Dieu se révèle encore aujourd'hui. On a besoin de lui chaque jour. Et puis c'est un grand mystère, hein, mais Dieu a décidé de partager avec nous son royaume, et l'héritage des nations et tout ceci. Mais on est quoi pour ces choses-là, hein? On n'est pas grand-chose, on est un grain de poussière. Et pourtant, il nous a tant aimés. Donc voilà.